Et bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech, c'est le mug du vendredi, le récap et les facs. Hein. Je n'arrive plus à parler ce matin, ça commence bien. On va essayer donc de parler de pas mal de sujets tech de la semaine, du jour, de prendre vos questions sur la tech. Nous sommes le vendredi 12 avril 2024, j'ai du mal avec les mois en ce moment, et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous en ce vendredi ensoleillé sur Paris. Ça va peut-être pas durer, mais on va en profiter. Hein, le beau soleil du matin dans le studio avec les volets fermés. je rappelle, parce que c'est une information importante à noter, il n'y aura pas de mug, pas de live pendant une longue période entre le 10 mai et le 24 juin 2024. Nous serons au Japon et on fera pas de live. Voilà. C'est le Refac, exactement, Yves. Tout à fait. Un grand merci, Renardo Glacial, pour ton 9e mois d'abonnement. Et j'ai oublié de remercier hier Léo Parleur, qui, Léo Parleur, bien connu, hein, une chaîne, un live Twitch de gastronomie reconnu mondialement. Et qui cumule son 8e mois d'abonnement. Un grand merci, Léo. Sans live, je me fais harakiri. Ah, alors, tiens, page de culture. Savez-vous la différence entre harakiri et le soboku? Parce que les Japonais disent plutôt c'est soboku, c'est ça? Le suicide à la japonaise. Ça y est, ça, on commence direct par un énorme seppuku. Seppuku. Putain, je ne suis pas très bon en japonais. Ben, y a une différence, en fait. Et en fait, les Japonais vont plutôt dire seppuku que harakiri. En fait, harakiri est un peu une... Ce que les diplomates ont ramené du Japon. En fait, si j'ai bien retenu, harakiri, c'est juste éventré. Et seppuku, c'est tout le rituel, en fait. Percer, éventré. Ou c'est le contraire. Et en fait, il y a toute une vidéo assez intéressante qui explique... Alors, il faut comprendre la mentalité japonaise de cette époque-là. Comment, au début, ce n'était pas forcément un rituel, comment c'est devenu un rituel, etc. Allez la voir, c'est intéressant. Voilà, c'était la petite minute culturelle pour démarrer l'émission. Ah, écoute, il y en a qui se font harakiri. Mais non, de toute façon, on reviendra. On va faire, y aura des formats courts sur Instagram, TikTok et tout ça du Japon. Vous serez pas sans nouvelles. Nous ne disparaissons pas. Bon, écoutez, on a un récap à faire. On va peut-être attaquer ça tout de suite, vu que là, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire. On va regarder un petit peu de quoi on a parlé cette... Attendez, je remonte... Ta-ta-ta-ta. Voilà. Alors, Marion, elle vous a parlé... Ça marche, les formats courts pour la chaîne YouTube? Oui, ça marche bien. Je le disais hier aux contributeurs qui me posaient la même question... notre premier million de vues, on l'aura pas fait sur une vidéo YouTube longue. Notre premier million de vues, on l'a fait sur Instagram, sur un format court. C'est pas la même chose, hein, les vues des formats courts et les vues des formats longs, c'est pas compté pareil. Vraiment, il y a des subtilités, mais non, ça marche bien. Ça marche bien. On est content des résultats et ça amène des nouvelles personnes à la chaîne. Donc ça, c'est cool. Donc, bah, si vous ne nous suivez pas hein, sur Instagram, TikTok, et on... Alors, le truc, je vous le dis, comme les shorts de YouTube sont limités à 1 minute, généralement, les formats courts sont un petit peu plus complets sur Instagram et TikTok. On est obligé bah, de couper du texte pour les publier également en shorts YouTube. Donc, si vous voulez les formats courts un petit peu plus complets, il vaut mieux les regarder sur Instagram ou TikTok. Voilà. C'est la même chose, hein, généralement, qu'on met sur Instagram et sur TikTok. Voilà, pour les formats courts. Est-ce qu'il y a des questions sur les formats courts ou indépendants ou retraités, amis chômeurs ou D'accord. Allez, on commence, on regarde un petit peu de quoi Marion nous a parlé en début de semaine. Elle vous a parlé effectivement de Duolingo qui... chez Duolingo, on va pouvoir apprendre maintenant aussi les maths et la musique. Tout à fait. Spotify qui amène les playlists avec de l'intelligence artificielle. Vous allez pouvoir les prompter avec votre humeur. Et ça va créer une playlist. Assez intéressant, même si on en avait déjà parlé hein, dans une vidéo sur la chaîne YouTube. Mais effectivement, Jony Ive, donc le designer bien connu d'Apple, Sam Altman d'OpenAI et Lauren Powell Jobs vont-ils concurrencer l'iPhone ? En tout cas, il y a des investissements assez massifs qui sont en train d'être faits côté OpenAI par ces trois personnes pour développer effectivement des objets qui contiendront donc probablement du ChatGPT multimodal et des choses comme ça. On en reparlera aussi dans l'émission parce que j'ai un article sur Human, les premiers tests de l'AI PIN de Human. Donc on parlera de ces gadgets AI. Qui, je pense, faussement sont jugés comme des remplaçants de smartphones. C'est pour ça que je trouve que ce titre-là est un peu trompeur. Vont-ils concurrencer l'iPhone ? Je pense pas que c'est le but. Mais ça, j'avais expliqué ça longuement dans ma vidéo. Les smartphones vont disparaître. Bah, en fait, non. Mais un peu. Mais non. Mais un peu. Mais non. Allez voir la vidéo. C'est compliqué. On a parlé aussi, et ça j'en avais parlé aussi dans un format court cette semaine, effectivement, avec le scrapping qui est fait par OpenAI des vidéos YouTube, ce qui n'a pas plu à Google. Est-ce que Google n'est pas aussi en train de faire la même chose ? En gros, pour vous la faire courte, c'est la course en ce moment chez les GAFAM qui développent les IAG. IAG, maintenant, je vais dire ça pour IA générative, ça va plus vite. Les IAG, c'est un peu à celui qui aura la plus grosse base de données. En gros, ça sera celui qui a l'IAG la plus puissante, c'est celui qui aura entraîné ses modèles de langage sur le plus de données possible. Et ça ne va pas s'en poser des problèmes. Et ça va être un des gros problèmes de l'IAG, la légalité, non, pas les viagers, non, ça c'est autre chose. Ça va être un des gros problèmes des IAG, c'est la légalité de tout ça. Parce que, et c'est un débat intéressant. Quelque part, un modèle de langage consulte Internet et s'entraîne sur un Internet tel qu'il est. Donc, ce que l'être humain a créé comme contenu sur Internet, un modèle de langage va le lire et s'entraîner dessus. Le lire, l'écouter, le regarder et s'entraîner dessus. Afin de développer des réponses, de générer des réponses. Donc, on pourrait dire, c'est du fair use. Dans le sens où tout ce que fait le modèle de langage, c'est s'entraîner sur du contenu qui a été produit. Et c'est ce que m'ont dit certains dans les commentaires du format court. Bah, en même temps, voilà, ils font que regarder, ils ne diffusent pas ce contenu sans avoir le droit des contenus. Oui, mais derrière, une IAG génère une réponse. Et cette réponse, on pourrait dire aussi qu'il la génère grâce à l'entraînement qu'il a eu en prenant plein de petits bouts de contenu pour générer un contenu. De plus est, pour la plupart des IAG, ils font payer. Donc, c'est un contenu qu'ils vendent, en fait. Et on pourrait arguer, c'est exactement comme en musique, le problème des remixes, de la techno, du hip-hop, etc., qui prennent des morceaux de musique existantes pour générer une nouvelle musique. Et on sait que dans l'industrie musicale, ça a été compliqué, et c'est compliqué encore aujourd'hui, de rémunérer tous les ayants droit sur un remix, un sample, etc. Ça va être exactement le même problème pour l'IAG. Dans quelle mesure une réponse générée et vendue n'a pas plein de petits bouts de copyright dedans, en fait. Le sampling. Les IAG, c'est le bouquet. Les IAG, je ne l'ai pas. Pas confondre avec les viagers. Oui, non, c'est autre chose. C'est autre chose. Les viagers, c'est générer de l'argent avec des morts. C'est autre chose. Il y a des petits bouts de morts dedans. Non, c'est horrible. C'est horrible. Après, oui, c'est encore compliqué aujourd'hui, mais peut-on parler de valeur créative du sampling comparé à une IAG ? C'est un débat complexe et je vais te dire, la justice est déjà... Il y a eu des plaintes hein, du New York Times, etc., contre OpenAI. Ça va être un problème parce que c'est clair que si on applique les lois copyright à 100%, il va y avoir un blocage général sur le développement de l'IAG. Souhaitable, souhaité, c'est un autre débat, mais ça risque de poser un gros problème. Mais en même temps, si on fait rien du tout pour le copyright, certains vont dire que c'est du pillage, et ça se voit notamment sur la génération d'images. Là où une IAG qui génère des images est capable d'imiter des styles d'illustrateurs déjà existants, de photographes déjà existants, et du coup, c'est une perte sèche pour le photographe avec des images qui ressemblent, photographe ou illustrateur, avec des images qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à son travail, à son style qu'il a développé. Donc, le problème n'est pas simple. Le problème n'est pas simple. Interruption volontaire de génie. C'est comme si moi, développeur, je devais créditer les Indiens des tutos YouTube dans mon travail. Je le vois dans vos réponses à quel point le problème est complexe. Parce qu'en fait, tout dépend où est-ce qu'on se place et tout dépend de l'importance qu'on accorde à tel ou tel contenu, en fait. Et c'était intéressant, justement, YouTube, parce que il y a encore énormément de gens qui considèrent que les vidéos des youtubeurs, c'est pas un copyright aussi important que la musique, les films et les séries. Donc qu'on pille les youtubeurs, ça va, c'est pas un drame. Il y a encore beaucoup de gens hein, qui pensent ça, que YouTube n'est pas un vrai métier et que les vidéos qui sont sur YouTube sont un sous-type de contenu audiovisuel. Mais si on générait, par exemple, un film en prenant plein de petits bouts de film, genre, génère-moi un film de style Coppola avec une histoire de bouffe-caillou. Je ne sais pas pourquoi ça sort de mon cerveau, mais voilà. Est-ce qu'on trouverait... Si le film est vraiment dans le style Coppola, est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Cailloux, gravier, exactement. Moi, je pense, de toute façon, là, vous demandez, mais comment ça marche? Enfin, là, tu demandes, Mingus, je me demande comment ça fonctionne dans ce cas pour les droits. En fait, je pense que là, il va y avoir des jurisprudences. Je pense que la loi n'est pas encore prête pour l'IAG. Les lois n'existent pas. Et elles vont être forgées, en fait. Moi, mon intuition, c'est comme ça va être extrêmement compliqué, presque plus compliqué pour la musique avec les samples. Je pense qu'il y aura... Enfin, je verrais bien un espèce de forfait qu'on va imposer aux IA avec une redistribution un peu générale derrière. Mais ça va être, ouais, ça va être compliqué à mettre en place. Compliqué, compliqué. Mais on pouvait déjà faire un court-métrage dans le style 2 et comment ça se passe? Bah, il y a des droits à la parodie, il y a des droits... De toute façon, il y a des procès très célèbres, ne serait-ce encore une fois, je reste dans le domaine de la musique. À partir de quel moment on dit que c'est une inspiration ou un plagiat, en fait? C'est compliqué. C'est compliqué. Un hommage, ouais. Il y a des vides juridiques, mais globalement, il y a des textes de loi qui peuvent restreindre les IA sur la manière dont elles se nourrissent des données. Oui, mais ça va poser un autre problème. Et je sais que certains d'entre vous disent que ce n'est pas un problème. Mais du coup, si on bride et qu'on limite les capacités d'apprentissage des IAG, elles vont marcher beaucoup moins bien. Donc, ouais, c'est des problèmes vraiment pas simples. Et ça va être intéressant de suivre comment effectivement, légalement, les IAG vont pouvoir continuer, quoi. Et en fait, bon, il y a des situations où ça semble assez facile de trancher. Je sais pas, une IAG demain génère une vidéo qui ressemble tellement aux miennes, avec mes expressions, mon intonation de voix, mon visage plus ou moins reproduit avec Sora, etc. Bon, là, je vais dire, hé, hey, oh, mec, hé, hey, oh, 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 hein, oh. Voilà, j'aurais raison. Mais après, s'il y a des petits bouts qui sont vachement diffus, ça serait même difficile pour moi de me dire... Mais attends, on dirait que c'est moi. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Avec ces arguments, un juge te donnera raison. Ah oui, oui, moi au jury, enfin, au tribunal, c'est très... Wow, 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 hey, oh, hein, hey, non, parce que... Oh. Hein? Elles sont pas si intelligentes. Les intelligences artificielles, en fait, c'est un mot piège, intelligence artificielle. Schématiquement, pour faire un bon mot, les intelligences artificielles sont ni intelligentes ni artificielles. Mais en fait, tout dépend comment tu qualifies l'intelligence et comment tu qualifies artificielle. C'est... Mais bon, on va dire que c'est un mot simple et marketing. Il n'y a pas si longtemps, on appelait ça le machine learning. Hein. Ne tombez pas dans le piège de les IA, ce n'est pas vraiment intelligent et tout ça. Parce que, en fait, c'est juste pour dire quelque chose, c'est faire un discours sémantique sur un problème beaucoup plus profond. Oui, bien sûr, c'est des algos. C'est des stats, hein, l'intelligence artificielle. C'est des statistiques. Pour l'instant, on n'est pas encore aux IA générales, qui seront aussi des IAG. Il faut, faut peut-être pas que j'utilise le terme IAG. Moi, pour expliquer à des gens qui ne sont pas du tout technophiles, ce que je leur dis, c'est que pour l'instant, les IA ne sont pas du tout pascaliennes, dans le sens... les IA sont très très loin du « je pense, donc je suis ». En gros, pour la faire très très schématique, et ça engendrerait une longue discussion, une IA ne pense pas qu'elle pense. Hein, relisez Pascal, machin et tout ça. Donc, ce n'est pas un être pensant. Parce qu'un être pensant est un être qui pense qu'il pense, qu'il sait qu'il pense, qui peut regarder sa pensée agir, en fait. C'est Descartes, déjà, c'est pas Pascal. Jérôme, tu es très mal réveillé. C'est Descartes, oui, cartésien. Je voulais dire cartésien, pourquoi j'ai dit pascalien ? N'importe quoi. Honte sur moi. Honte sur moi. Oui, c'est Descartes, bien sûr. C'était pour voir si vous suiviez. Le cogito ergo sum, exactement. Donc on est très très loin pour l'instant. Alors ça peut arriver demain parce que les choses vont vite, mais là on va vers des débats de possibilités infinies. Mais aujourd'hui, les intelligences artificielles génératives sont incapables de prendre une décision, en fait. Qu'est-ce qu'une décision ? Ça, c'est un autre débat. Mais... Elle nous donne des réponses qui, nous semblent cohérentes et utiles, et elles peuvent l'être, mais elle-même, l'intelligence artificielle générative, ne sait pas ce qu'elle a généré, en fait. Elle a fait que des maths, elle a fait que des statistiques, en fait. En fait, pour l'instant... Les intelligences artificielles génératives ne font que nous donner des réponses qu'elles pensent que statistiquement on attend. Il y a plein de manières hein, de discuter de tout ça. Ça serait des heures et des heures de discussion. Hein. Mais c'est vachement intéressant de s'intéresser à ça. Ce qu'il faut juste que vous compreniez, c'est que c'est des choses qui se passent sur des quantités de données tellement énormes qu'on a du mal à le réaliser. Donc, c'est un peu des lois des grands nombres. Les statistiques deviennent vraiment très bonnes et une IA générative est capable de générer une réponse qui fait très humaine juste parce que elle a fait énormément de statistiques sur énormément de données. Voilà. Et alors, il y a un article, c'est con, je n'ai pas le lien, mais je pense que vous le retrouverez avec les mots-clés « jeu d'échecs » et « IA ». J'ai lu un article très intéressant cette semaine. Désolé, hein, je pars un peu dans des vagabondages de pensée, mais c'est hyper intéressant. Pour comprendre ce qui va nous arriver avec l'intelligence artificielle générative, il faut regarder ce qui est arrivé au jeu d'échecs avec l'arrivée des ordinateurs spécialisés dans le jeu d'échecs. Ça fait déjà pas mal de temps que les ordinateurs sont devenus plus forts que les meilleurs joueurs d'échecs aux échecs. Est-ce que les gens ont arrêté de jouer aux échecs ? Non. Est-ce qu'ils y jouent différemment ? Oui. Donc, quand on dit ces IA génératives vont remplacer les humains et on ne pensera plus, elles feront tout à notre place, c'est mal comprendre le fonctionnement de tout ça. On n'arrête pas de jouer aux échecs parce que les ordinateurs sont plus forts que les humains aux échecs. Ça je trouve que c'est... ça m'a presque donné envie de faire une vidéo dessus, puis après, je me suis dit, ouais, elle va faire 3 vues. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que j'avais jamais pensé à ça. Pourquoi finalement les humains continuent à jouer aux échecs alors que les ordinateurs sont plus forts ? Faut voir le complément apporté par Mr. Phi sur cette allégorie dont des facteurs confirment dans la vidéo, même de Mr. Phi. Ok, je suis carrément d'accord. Ce qui rend leur business mort dans l'œuf, du coup, ces entreprises choisissent. Je m'excuserai après avoir demandé la permission. C'est pas tout à fait faux ce que tu dis, Fanny. Ce qu'on peut reprocher à la Silicon Valley et aux GAFAM aujourd'hui, c'est encore d'être en mode « move fast and break things ». Très années 2000, en fait. On fait, on verra après les conséquences. On est en 2024, on sait qu'on est en train de manier des couteaux à double tranchant. Moi, de toute façon, je reste persuadé que OpenAI a fait un hold-up. Ils avaient, tous les GAFAM avaient l'intelligence artificielle générative dans leur labo, mais ils s'étaient un peu mis d'accord pour pas le sortir trop vite pour le grand public. Et Sam Altman et OpenAI, ils ont fait « Voilà, let's go !» Allez, on balance ChatGPT dans la nature, on verra bien ce qui se passe. Et qu'en ce moment, on est un peu en mode « Waouh, on a relâché un truc. Ok, bon bah maintenant faut gérer quoi. Par contre, peut-on copier intégralement OpenAI ? Ça serait drôle, voler des voleurs. Déjà, toi, t'as tranché. Pour toi, c'est des voleurs. Moi, je suis pas aussi tranché que toi. Les échecs, déjà rien que le nom du jeu, c'est un paradoxe pour des vrais IA. Faut-il perdre aux échecs ? Faut-il un échec pour gagner aux échecs ? Ouais, c'est pas mal. J'avais jamais pensé à ça, mais effectivement, échec, c'est pas une réussite comme nom. ChatGPT 1 et 2 étaient déjà utilisés dans Minecraft pour générer des dialogues, d'accord. Micon a fait une vidéo là-dessus, ouais. Intéressant, intéressant. Marion a également parlé, on a pas mal parlé de TikTok cette semaine, parce qu'effectivement, TikTok, en fait, les photos marchent bien sur TikTok, et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, TikTok va lancer une appli qui, a priori, s'appellerait Note, pas le meilleur nom du monde, qui serait vraiment un compétiteur d'Instagram. Ils s'imitent tous. Hein. C'est fou. Hein. C'est fou. Article aussi intéressant de fond que Marion a fait, que Instagram fait plus d'argent avec la publicité que YouTube n'en fait. Et ça fait pas mal d'années que ça dure. Et ça, c'est assez intéressant. Effectivement, quelque part, Instagram bénéficie de plusieurs choses. D'abord, la pub est perçue comme un peu moins intrusive. Moi, je la juge quelque part plus dangereuse, la pub dans Instagram, que dans YouTube, parce on la voit moins, la pub dans Instagram. Elle passe plus crème. Donc, pour moi, elle est plus insidieuse. Elle est un peu plus manipulatrice, en fait. Parfois, quand tu fais pas attention sur Instagram, tu sais pas trop si tu es en train de regarder une pub, une annonce, un truc, un produit par un influenceur, tu sais pas. Tu fais gaffe, ça te saoule de regarder si c'est un contenu sponsor ou pas. Petit côté un peu plus insidieux. Donc plus efficace. Donc, qui dit publicité plus efficace ? Parce que ça, c'est une mécanique qu'il faut que vous compreniez. La pub, ce n'est pas un prix fixe. Ce que vous devez retenir, c'est que plus une pub est efficace, plus elle coûte cher à l'annonceur. Plus il est prêt à mettre de l'argent. Le prix de la pub... En fait, la pub, ce n'est pas juste « Oh, il y a une pub, donc tu as gagné de l'argent. » On va dire, par exemple, un bandeau publicitaire sur un site internet random, sans ciblage, ça vaut 0,01 centime à l'annonceur. Ça vaut rien parce que tu as énormément de déperditions publicitaires. Ça rapporte très peu. Dès que tu mets du ciblage, du traquage ou des trucs comme ça, ça vaut de plus en plus cher. Donc, c'est pas... En fait, quand vous voyez un site qui est blindé de pubs, ils font bien souvent beaucoup moins d'argent qu'un site où il y a beaucoup moins de pubs, mais où ces pubs sont bien mieux orchestrées. Voilà. Donc, ça me surprend absolument pas que Instagram fasse plus d'argent que YouTube, parce que la publicité est plus efficace, je pense, sur Instagram que sur YouTube. Sans parler même des adblockers, il n'y a pas du tout de système pour adblocker des pubs sur Instagram, en tout cas à ma connaissance, alors que YouTube, tous ceux qui regardent du YouTube sur des navigateurs, généralement bloquent les pubs. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles YouTube veut aussi développer les formats courts sur YouTube, parce que c'est une manière qui est beaucoup mieux vécue par les gens de d'absorber de la publicité. Quand une publicité ressemble pas trop à une publicité, vos anticorps anti-pub se réveillent pas trop. Votre vigilance s'endormit, en fait. Quand une pub, elle est derrière un truc qui dit « Attention, c'est une pub !» Là, vous avez tous vos anticorps anti-pub qui sont là « Oh, je vais pas me laisser avoir par cette publicité !» Salaud de capitalistes avec leur pub là qui me font chier. Vous avez identifié la pub. Je pars dans les graviers, mais c'est exactement nous ce qu'on vit en tant que chaîne. Nous, on est super transparent. Dès qu'une vidéo est sponsor ou dès qu'il y a un placement, on vous affiche, non pas en transparence, mais de manière assez visible. Attention, ceci est une collaboration commerciale. On se prend beaucoup plus de critiques que plein de chaînes YouTube qui, encore aujourd'hui, malgré les lois qui sont passées, sont très discrètes, trop discrètes, à mon avis, à vous indiquer qu'il y a une collaboration commerciale. Eux, ils se prennent pas de critiques du tout. J'ai même eu, et j'avoue que ça m'a... J'ai planté mes dents dans la table quand j'ai lu ce commentaire. « Ouais, Jérôme, avec toutes les pubs sur ta chaîne YouTube, t'es en train de te corrompre, enfin, un truc dans le genre. » Tu cours à ta perte. Prends exemple sur une chaîne que je ne citerai pas. Prends exemple, lui, il ne fait pas de pub. Bon nom de Dieu. Non, mec, il fait plus de pub que moi, simplement, il ne te le dit pas aussi clairement. C'est tout. Voilà, c'est exactement pareil. On est puni de notre honnêteté. C'est, disons que, mais je le savais, je ne suis pas naïf aussi. Nous, on a de toute façon, depuis maintenant 7-8 ans, toujours pris le parti d'être le plus transparent possible sur les endroits qui sont financés par la publicité dans notre contenu. Bien sûr qu'on s'expose à plus de critiques que ceux qui dissimulent plus la publicité. Et ouais, de temps en temps, ouais, je me mords la joue, quoi. Parce que moi, je sais qui est payé. Moi, je sais qui a fait une vidéo sponsor pour telle ou telle marque ou tel truc. Et je vois comment ils le disent, qu'ils ont été sponsor. Et parfois, c'est extrêmement discret, oui. Tu coupes le son quand il y a des pubs. Ouais, justement, la petite mouche en basket. Quand tu sais pas que c'est une pub, tu peux pas couper le son. C'est là où je vous dis, méfiez-vous de ce que vous voulez, les antipubs. Parce qu'à force de faire de l'antipub, qu'est-ce qui va se passer? Les pubs vont être de plus en plus dissimulées. Elles vont devenir de manière de plus en plus diffuse. Vous ne saurez pas bien si le mec, il a été payé pour vous dire ça ou pas. Et là, ça devient dangereux parce que justement, votre cerveau ne sait pas qu'il est en train de regarder de la pub. Et en fait, il y a souvent ce discours chez les gens qui sont farouchement anti-pub. Non, mais moi, la pub, quand elle est cool, quand elle est rigolote, quand elle est bien intégrée dans le contenu, là, ok, je suis d'accord. Je pourrais te dire que c'est toujours de la pub, simplement en la rendant rigolote et bien intégrée au contenu. On a juste mis beaucoup plus de vaseline sur la pub. Donc, ça passe mieux. Oh là là, l'analogie du matin. Et en vous disant pas que c'est de la pub, c'est un gros pot de vaseline qu'on met sur la pub. J'ai vu une vidéo d'un gars qui essaye des voitures pendant 3 minutes. Il nous a fait l'article des produits nettoyants sans mettre collaboration commerciale. C'est gênant et forcé. Est-ce que ça sert de laisser un commentaire? Un commentaire, non. Par contre, le signaler à la DGCCRF, ça prend pas beaucoup de temps. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il faut être sûr que le mec, il a été payé pour parler du produit. Parce que peut-être que c'est un fan du produit nettoyant et qu'il t'en parle. Et s'il n'est pas payé, c'est pas une pub. Parce que sinon, moi, ma chaîne, c'est que des pubs. Je parle de produits en citant des marques. Je suis pas payé pour le faire. Si vous considérez que ça, c'est de la pub, à ce moment-là, tout est pub, en fait. La pub, c'est très simple. C'est que j'ai été payé pour vous parler de quelque chose. Voilà. C'est ni plus ni moins ça, la pub. Il faut qu'il y ait une transaction financière. Donc, il faut déjà que tu sois quand même assez sûr que le mec a été payé pour te parler du produit nettoyant pour voiture. Il ne faut pas que ça soit juste ton intuition. Si c'est le cas, ou même si tu as des doutes, mais tu as des forts doutes, rien ne t'empêche. Et même, je t'encourage parce que c'est important de signaler ce genre de choses parce que sinon, la concurrence ne peut plus fonctionner. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est important que tu ailles sur le site de la DGCCRF, tu leur dis, bah voilà, j'ai vu telle vidéo, tel vidéaste, je voudrais juste savoir si j'ai vu une publicité ou pas. Pourquoi je dis que c'est important par rapport à la concurrence? S'il y a des pubs dissimulées, elles ont 200 fois plus d'efficacité, voire 2000 fois plus d'efficacité qu'une pub non dissimulée. Donc, c'est fausser le jeu de la concurrence que de laisser ce type de pub. Alors oui, après on peut rentrer dans des débats très complexes. Il n'a pas été payé pour les produits nettoyants, mais on lui a donné les produits nettoyants. Est-ce qu'il a été payé ou pas? Alors, nous, on a plus ou moins une règle chez Naotech. Quand on nous donne un produit, ce qui est en fait assez rare, hein, je vous le dis, il ne faut pas trop fantasmer là-dessus. Quand on nous donne un produit, c'est la valeur faciale de ce produit, c'est-à-dire la valeur en boutique. Je ne parle pas de la valeur de combien ça a coûté au constructeur. Mais si la valeur de ce produit dans le marché dépasse les 500 euros, on considère qu'on est payé. Pourquoi en dessous de 500 euros, on considère qu'on n'est pas payé? Parce qu'il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Envoyer un produit pour qu'on puisse le tester, ça coûte cher parce que ce n'est pas la poste qui coûte cher. C'est qu'il faut des gens pour gérer les envois et le rapatriement des produits. Et un smartphone, par exemple, s'il coûte moins de 100 euros à une marque à fabriquer, elle ne va pas se faire chier à embaucher quelqu'un pour rapatrier les smartphones après test. Donc, généralement, on nous les laisse. En gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on nous laisse... Ce qu'on nous laisse, c'est souvent des produits pas bien chers. Voilà. Et à prendre aussi en compte, quand même, dans cet argument, il a été payé, mais est-ce que c'est vraiment un paiement ? Oui et non. Parce que même si on me laisse un produit à plus de 500 euros, que je n'ai pas vraiment le droit de... Je ne peux pas faire de l'argent avec, je n'ai pas le droit de le revendre. Ou alors, il faut que je le revende en le déclarant comme un cadeau au fisc. Enfin, il y a un process légal, en fait, pour ce type de cadeau. Mais je ne peux pas payer mon loyer directement avec. Je ne peux pas payer les salaires des gens qui travaillent pour Nowtech. Donc, oui, c'est une forme de paiement. Mais on ne peut pas le mettre sur le même pied qu'un annonceur qui me donne 1000 euros pour parler d'un produit, en fait. Non, Apple nous laisse aucun produit, nous. Nous, non, on n'a aucun contact avec Apple. On aimerait bien, mais non. Il y a très peu en France. Il y en a 3-4 des YouTubers qui, de temps en temps, se font prêter des produits avec The High Collection, qui, lui, a d'excellentes relations avec Apple et qui se fait prêter des produits, invité en avant-première, etc. Et ce n'est pas du tout une critique envers The High Collection, tant mieux pour lui. Alors, il y a d'autres. C'est intéressant, tu parles du Roborock. Il y a des produits, généralement, un aspirateur, on ne le renvoie pas parce que quand on le teste, on le dégueulasse. Donc, il ne pourrait même pas le revendre en refurb. Donc, oui, les robots aspirateurs, par exemple, c'est typiquement le genre de produit que les constructeurs nous laissent après test parce que, voilà, on ne va pas le renvoyer plein de poussière ou dégueulasse. Et ça, tu as beau le nettoyer, il est invendable en refurb un aspirateur, quoi. Ça fait plusieurs minutes que je rigole sur le titre de l'impression 3D. J'irai faire un tour. Effectivement, j'avoue que l'image, elle est... Comment dire ? Does anal 3D printing count as superhero now? Oui, Marion vous a parlé en fait d'une série qu'elle aime beaucoup, mais c'est typiquement le genre d'humour de la série. Hein. La série Extraordinary, pardon, c'est une série où effectivement les super-héros en fait ont des pouvoirs très loufoques, dont un effectivement peut imprimer en 3D avec son anus. Et je dirais que la photo en plus, elle est comment dire, le cadrage est un peu spécial. J'avais pas vu effectivement que vous aviez ça devant les yeux depuis tout à l'heure. Ça passe sur Twitch, le mot en A. Bah écoute, on verra bien. Hein. Si ça coupe brutalement, vous saurez pourquoi. Effectivement, bah oui, bah allez réécouter le replay si vous voulez savoir pourquoi Marion, effectivement, trouve cette série très bien. C'est effectivement, enfin, moi j'ai vu que les premiers épisodes de la saison 1, ça fait partie des séries qu'il faut que je regarde. C'est très drôle comme, comme série. Alors, effectivement, nous, ça nous fait penser parce qu'on a eu en France avec un des frères Astier la série, comment elle s'appelait, Super-Héros ? Non, où il y avait aussi le mec qui avait... c'était très drôle aussi comme série. Son super pouvoir, c'était de pouvoir projeter du shampoing doux. Hero Corps, merci, Hero Corps. Le pitch est le même, mais ce n'est pas vraiment le même type de série. Vous n'aurez pas la vibe Hero Corps dans Extraordinary. Tout à fait, tout à fait. On arrive aux articles que j'ai traités hier. On ne va pas refaire le débat, mais effectivement, on a une discussion assez intéressante sur ce qu'on appelle les ingénieurs du chaos, c'est-à-dire ces gens qui relaient les fake news sur les réseaux sociaux. Quelles sont leurs motivations ? Débat très intéressant Je trouve qu'on a eu hier. On a parlé aussi du Vision Pro qui n'intéresse pas les développeurs. Est-ce que le Vision Pro est un top ou flop? Ma conclusion, c'est que c'est encore trop tôt pour le dire. Apple va prendre son temps, à mon avis, avec le Vision Pro. Après, dans les faits, clairement, il y a peu de développeurs qui développent des nouvelles applis pour le Vision Pro. Donc, on a analysé tout ça hier. On a parlé encore de TikTok, puisque TikTok va sortir aussi une autre app qui va s'appeler TikTok Lite, qui va vous rémunérer plus vous passez de temps et plus vous regardez des vidéos et plus vous interagissez avec les vidéos de cette plateforme TikTok Lite. Je vous ai mis en garde. J'ai dit attention à la douille. S'il vous donne de l'argent, alors c'est pas vraiment de l'argent, vous allez gagner des espèces de points qui vous donneront droit à des bons d'achat sur Amazon. On a détricoté un petit peu le système. Ce n'est pas inintéressant pour vous. Vous gagnez quand même de l'argent, mais c'est parce que TikTok en gagnera beaucoup plus qu'ils se permettent de faire ça. On a fait une analogie un petit peu audacieuse. Si c'était un dealer de drogue, on ne parle même plus d'échantillons gratuits. C'est qu'en fait, maintenant, ils vont même vous donner de l'argent si vous prenez les premiers échantillons. Voilà. En fait, c'est quand même... Il faut être quand même vigilant. On sait déjà que TikTok ne provoque pas forcément des problèmes d'addiction, mais peut provoquer des problèmes d'addiction. Si en plus tu ajoutes de l'argent à un truc qui est déjà basé sur un algorithme de machine à sous, what could go wrong? What could go wrong? Et si effectivement ils incentivent, comme on dit dans le marketing, s'ils incentivent le temps que tu passes sur leur plateforme, wow. Donc si je passe 24 heures non-stop sur TikTok, ouais, j'ai gagné 10 euros de bon d'achat Amazon. J'ai perdu ma santé mentale. Je me suis fait caca dessus. Mais c'est pas grave, j'ai gagné 10 euros de bon d'achat sur Amazon. Super ta vie. C'est vrai que, oui, entre Vaseline... Enfin, oui, on est sur un champ lexical pas top ce matin. On est d'accord. Donc, bon, après, je dirais qu'au moins, ça vous rappelle que vos vues valent de l'argent. Si vous ne mettez pas Adblock. Tu fais quoi dans la vie? Je bouffe du TikTok toute la journée. Ouais. Ouais, disons qu'on voit tout de suite les excès que ça pourrait engendrer, effectivement. Je croyais que TikTok était trop addictif et là, ils font un truc pour être encore plus addictif, je ne comprends pas. Sur Newt, si certains produits addictifs sont interdits, c'est bien parce que c'est le meilleur business du monde. Quand tu arrives à fabriquer un produit dont les gens n'arrivent pas à se passer et il leur en faut toujours plus, bah tu as juste trouvé, d'un point de vue commercial, le meilleur produit du monde. Donc, voilà. Ils ne sont pas là pour notre bonheur, notre épanouissement et notre santé, ces gens-là. Ils sont là pour faire du pognon. C'est parfois antinomique. D'ailleurs, je le sais parce que c'est, par exemple, pour avoir un tout petit peu bossé dans le monde du jeu vidéo, plein de développeurs et d'éditeurs de jeux vidéo cherchent le jeu vidéo le plus addictif possible, mais il est strictement interdit d'utiliser le mot « addiction ». Bah, tu sais, Sir Nut, je vais te la faire assez simple. TikTok Lite, tu vois pas de pub. Il te donne de l'argent. Mais après, ne serait-ce que si tu as un accord d'affiliation avec Amazon, il faudrait faire les calculs, mais je me demande si ça ne te rapporte pas plus que la pub. Sujet sensible. Non, mais je sais. Et tous les acteurs du jeu vidéo ne cherchent pas à rendre leur jeu le plus addictif possible. Mais dans le jeu mobile, par exemple, avouez quand même, ils jouent pas mal avec les algorithmes de frustration pour vous rendre le plus addict possible. Pégase, je vais essayer de répondre à ta question. Repose-la moi tout à l'heure. Là, on termine juste le tour des articles de la semaine. Je vous ai parlé aussi hier de Google Photos qui va arriver sur les smartphones Android. Attention, il y a une douille. Les outils d'édition par intelligence artificielle générative des Pixel 8 seront bientôt disponibles gratuitement sur tous les smartphones Android. Attention, ils sont gratuits, mais ça sera limité à un certain nombre d'actions d'intelligence artificielle. Si vous voulez aller plus loin, il faudra payer Google One. Mais au moins, vous le savez. On a parlé également hier de l'AI Act, ou comment encadrer les systèmes d'intelligence artificielle en Europe. C'était un peu procédural, mais intéressant. On a parlé aussi de Kobo, qui lance les premières liseuses avec des écrans e-ink en couleur. Donc, je vous ai parlé un peu de la technologie qui, pour l'instant, voilà, c'est pas non plus un affichage couleur qui vous permettra de regarder des photos ou des vidéos, parce que c'est limité à 4096 nuances de couleurs, mais qui vont permettre de lire des BD, des mangas sur des liseuses, et ça, c'est cool, avec le confort de l'e-ink, quoi. Donc, ça peut être quand même assez intéressant. On a parlé du Pass Navigo qui se rapproche de l'iPhone, mais peut-être pas en mai, comme vous l'avez entendu un petit peu de partout. Donc en gros, la démat du Navigo, enfin, putain, ça fait 10 ans qu'on l'attend, la démat du Navigo pour ceux qui ont un iPhone, parce que ceux qui ont Android, bien sûr, bah, ils l'ont déjà depuis un certain temps, pour l'iPhone, ça devrait arriver avant les Jeux Olympiques. Mais ça sera peut-être juste avant les Jeux Olympiques. Voilà ce que vous devez savoir. Et alors, il y a trois petits articles dont je voulais vous parler ce matin. Je garde celui de Human pour la fin parce que c'est peut-être celui de plus à débat. Il y a Shadow, dont on n'entend plus beaucoup parler et qui vont pas très très bien, hein, pour être honnête, Shadow. Mais là, justement, ils font un truc intéressant. Et si vous êtes abonné Shadow, je voulais quand même vous passer la news. Et je suis pas payé pour le faire du tout, parce que j'ai plus de contact chez Shadow. En fait, ils ouvrent un game store et il y a des occasions assez intéressantes. Donc en gros, vous pouvez acheter des licences Steam dans la boutique si vous êtes abonné Shadow. Vous pouvez acheter le jeu, par exemple Dragon's Dogma 2. Il y a un moins 54% dessus. Donc, ça peut être assez intéressant. Pourquoi c'est si long pour le pass ? Joubac, va écouter le replay d'hier. J'explique tous les problèmes avec Apple et tout ça. Pourquoi c'est aussi long de porter le Navigo ? Et aussi les latences de mobilité Île-de-France qui est un peu lent. Non, j'ai pas été payé là pour vous faire cette news ce matin, donc je ne suis pas sponsor. Après, on a un lien d'affiliation encore chez Shadow si vous vous abonnez, mais je crois qu'il y a plus grand monde qui clique dessus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Shadow. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé l'anecdote assez marrante. Antoine Griezmann, il y a une photo qui est tournée hier sur les réseaux de lui en train de faire un selfie. Et les gens ont dit, mais c'est quoi ce smartphone de dingo? On dirait qu'il l'a acheté chez Nature et Découverte. C'est quoi ce smartphone? Et c'est vrai que moi, en regardant, je fais, mais c'est quoi ce smartphone? Alors, le fin mot de l'histoire. Oui, c'est un joueur de foot, si vous n'êtes pas au courant. Le fin mot de l'histoire. Est-ce qu'on en parle de cette coupe de cheveux? Antoine, mon petit Antoine, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas ça le plus important, c'est ça. En fait, il faut savoir, effectivement, c'est lors d'un match de la Ligue des Champions et qu'il y a un partenariat entre Oppo et la Ligue des Champions. Et si vous ne reconnaissez pas ce smartphone, c'est parce que c'est le Find X7 Pro qui n'est pas distribué en France. Actuellement, Oppo s'est retiré du marché français. Du coup, on les connaît plus, les smartphones Oppo. Le Find X7 Pro est un haut de gamme Android, mais qui n'est pas distribué en France. Après, Oppo, d'après ce que j'entends, est en train de fourbir ses armes pour revenir. Hein. Donc, Oppo ne terminera pas Oppo. Donc voilà, en gros le smartphone que tient Antoine Griezmann. Oui, c'est une pub. C'est une pub, il y a un accord commercial, une collaboration commerciale exactement, entre la Ligue des Champions et Oppo. En gros, du type tous les selfies de tous les joueurs doivent être faits avec un Oppo et pas avec un iPhone, quoi. On a le Oppo Sum. Elle est très bonne, celle-là. C'est dans les vieux Oppo qu'on fait la meilleure soupe, tout à fait. Oui, je pense que la Ligue des Champions se fait payer pas mal par Oppo pour ce type d'exclusivité. Donc oui, il y a clairement collaboration commerciale. Après, la Ligue des Champions n'a pas les mêmes lois que nous. Eux, ils sont pas obligés d'écrire collaboration commerciale. Ha 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 ha. Vous sentez là mon seum? Et la télé, ils ont juste un petit P à écrire quelque part en transparence sur l'image. Là, vous voyez, c'est typiquement une collaboration commerciale. Vous ne savez pas que c'est une collaboration commerciale si vous ne connaissez pas comment ça marche. L'eau pot-au-feu, tout est possible avec Oppo. Mais vous comprenez, vous commencez à comprendre le problème de nos télépubs, c'est qu'on n'est pas tous à la même enseigne. Alors Wendigo, encore une fois, tu crois que... En fait, cette croyance qu'une pub ne t'influence pas parce que personne n'est assez teubé pour aller acheter un smartphone en se disant « je vais acheter le même smartphone que mon joueur de foot favori », c'est pas comme ça que marche la pub. La pub ne marche pas à un niveau conscient, en fait. Elle marche au niveau inconscient. Il y a plus dans l'arrière de ta tête, tu vas voir ce smartphone dans la vitrine, ça va vaguement te rappeler quelque chose. Mais ça ne sera pas dans ta décision consciente de consommateur. Tu ne vas jamais te dire de manière consciente, je veux, alors il y en a quelques-uns peut-être, mais personne effectivement va dire, je vais acheter tel smartphone parce que Antoine Griezmann le porte. Ce n'est pas comme ça que la pub marche, c'est tout ce que je peux te dire. Et c'est pour ça, les gens qui disent, la pub, ça ne marche pas sur moi, bah en fait, c'est une lapalissade. La pub ne marche sur personne au niveau conscient. La pub ne vous téléguide pas dans vos achats. Elle vous conditionne. C'est autre chose. Et vous vous en rendez pas compte, c'est normal, parce que c'est fait pour pas que vous vous en rendiez compte. Et ça répond pas à la question si on peut trouver cette Oppo chez Nature et Découverte. Alors là, la pub marche aux esprits faibles. Ça aussi, c'est une croyance. Désolé, hein, mais moi qui ai travaillé dans le marketing, y a des tonnes d'études scientifiques qui ont été faites qui vont même te montrer que c'est souvent les gens qui croient être le plus résistant à la pub qui sont le moins résistants à la pub, en fait. C'est une vieille croyance, ça, que la pub, c'est une question de volonté. Moi, j'achète que ce que je veux. Je vais te dire un truc très provoque, mais en fait, on est ultra prévisible et on n'achète pas du tout ce qu'on veut acheter. Les gens du marketing savent très bien ce qu'on va acheter. Très, 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 très bien. Ils arrivent même maintenant à en remplir des stocks presque au produit près en sachant combien de personnes vont acheter ce produit-là à Noël. Toujours la loi des grands nombres et les probabilités. Vous faites jamais d'achat surprenant, en fait. Vous répondez très bien à un profilage marketing. Surtout quand vous vous dites « Ouais, moi, j'achète pas comme tout le monde. » Si. Oh tiens, un Peak Design. Non, ce que je veux juste dire, Jubac, c'est que les individus croient faire des... Vous croyez faire des décisions libres dans vos achats, mais en fait, non. On peut prévoir vos achats de manière hyper prévisible. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une image dans ma tête de certains qui entendront ça ce week-end dans leur supermarché. Ils vont être là. Jérôme, il a tort. Je vais être complètement imprévisible dans mes achats dans le supermarché. Et je vais acheter ça, là, ce fromage que j'aime pas. Et ça, il l'a pas vu venir. Et regarde ces yaourts dégueulasses à la crème de marron que j'achète pas. Boum, dans le caddie. Hein, tu l'avais pas vu venir, celle-là. Hein. je veux que vous m'envoyiez des formats courts de vous imprévisibles dans des supermarchés. Et après, je veux voir la séance dégustation. Vous savez que même dans le marketing, il est complètement prévu que de temps en temps, vous vous rebelliez et que vous disiez « Oh là, je ne vais pas acheter la même chose que d'habitude. » C'est déjà prévu. Ils savent, statistiquement, dans le marketing, les points de rupture, c'est-à-dire quand est-ce que vous allez vous lasser d'un produit, vouloir en acheter un autre, etc. Demain, j'achète une bouteille de lait alors que je suis allergique au lactose. C'est toc. Ouais, bah déjà, je peux te dire que tu vas acheter du Smecta ou un truc pour le bide derrière. Jérôme, hier, j'ai acheté de la bière. La première fois en 42 d'existence, je ne bois pas. Je peux te le dire que le marketing l'a pas vu venir. Si, si Wendigo, parce que t'as acheté quoi d'autre? T'as acheté de la bière parce que t'as des amis qui viennent. T'as pas acheté de la bière pour toi. Donc, qu'est-ce que t'as acheté? Alors, je fais une hypothèse. J'imagine que t'as acheté de la bière parce que tu reçois peut-être des invités pour l'apéro. Donc, dans ton caddie, t'auras aussi acheté des biscuits apéritifs ou un truc. Donc là, il existe une stat selon laquelle tu vas acheter de la bière parce que tu as acheté des chips, même si toi-même, tu n'achètes jamais de la bière pour toi. Tu vois en quoi la consommation est prévisible, en fait. Mais, alors, je vais très loin. Mais on peut très bien... Tu as acheté du désherbant parce que c'est la saison... la saison, c'est quoi la saison là? C'est le début des retours d'apéro. Donc je peux même te dire que, et je suis sûr que l'étude marketing existe et les stats existent, que plus les gens vont acheter des produits pour leur jardin, plus statistiquement, il faut mettre des chipots et des merguez et des chips dans les rayons. Parce que tout ça contribue à notre envie d'apéro, de manger dehors, enfin le soleil, le printemps, les trucs qui poussent, il faut que je désherbe parce que mon jardin il est dans un état déplorable, etc. Tu vois, c'est en ça qu'en fait on est très prévisible dans nos comportements d'achat. Faites, alors l'expérience la plus simple à faire, regardez s'il fait beau ou pas, et regardez le rayon chips de votre supermarché. Alors, quand je parle, il fait beau, d'une semaine à l'autre. Voilà, des semaines de beau temps, et regardez votre rayon chips. Si, par exemple, cet été, il pleut tout le temps, vous allez voir le rayon chips diminuer. S'il fait beau l'été, le rayon chips s'agrandit. J'ai envie d'acheter une brosse à chiottes à cause du marketing. Possible. Bah, tu vois, Alix, je prends ton cas de ce que tu as dit en rigolant. La probabilité d'achat d'une brosse à chiottes est souvent liée. Par exemple, les brosses à chiottes, ils en vendent beaucoup plus au printemps. Pourquoi ? Parce que d'abord, les odeurs des chiottes, dès que la chaleur augmente, les odeurs aux chiottes augmentent. Et un besoin, le fameux ménage de printemps, c'est là aussi où les gens vont acheter plus de trucs désodorisants pour leurs chiottes, par exemple. Donc, il y a une stat qui existe de la probabilité même. T'achètes des chips, tu vas acheter une brosse à chiottes. Lié à la vente des pruneaux, tout à fait. Ah voilà, du charbon de bois, tu peux pas en trouver en hiver. Après, je vous le dis, hein, c'est pas un sentiment agréable ce que je vous dis, de se dire putain, en fait, je suis 100% prévisible. Je ne suis que des stats. Mais en fait, c'est presque un stade à passer. Tu relativises derrière. Mais ouais, ouais, on a l'impression d'être des individus qui décidons des choses. Pas vraiment. On est parti d'un Oppo et on termine là. Finalement, de partir d'Oppo et terminé dans les chiottes, il y a une certaine cohérence dans nos graviers. Donc, ça va, on reste cohérent. Et on termine. On termine parce que vous avez peut-être vu sur YouTube depuis hier, il y a effectivement les premiers tests du Human AI Pin, produit qu'on a largement commenté à sa sortie et tous les chroniqueurs tech étaient déjà d'accord, le produit ne sert à rien. C'est vraiment du prototype de chez prototype, avec pas mal de problèmes, mais moi je vous conseille de regarder la vidéo de The Verge, qui est peut-être la plus intéressante. Parce que justement, le testeur dit « J'ai beaucoup craché sur ce produit quand il a été annoncé. Je ne voyais absolument pas son utilité. Je l'ai testé. Ça ne marche pas. Mais j'ai envie que ça marche. » Et ça, c'est déjà un cheminement mental assez intéressant. D'un scepticisme de départ complet, genre le produit ne servira à rien, pourquoi ils ont fait ça. Deuxièmement, je le reçois, il ne marche pas, c'est clair, c'est pas bon, mais j'ai envie qu'il marche. C'est déjà intéressant. Et je sais, là, aujourd'hui, voilà, je les ai vus, les vidéos. C'est vrai que la plupart des avis sont très lapidaires. En plus, ce qui n'aide pas Human par rapport à Rabbit R1, c'est que, bon, le Rabbit R1, tu ne dois pas dépenser 800 euros plus un abonnement. Là, Human, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Hein. C'est 800 $ plus un abonnement pour un truc qui ne marche pas, qui est pour moi même pas une bêta. Là, on est dans de l'alpha. C'est un peu ce que je pense du Vision Pro aussi, hein, pour être tout à fait correct. Mais ouais, mais en fait, Anthony, moi, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Moi, je pense que l'émergence de ce type de produit, je pense pas qu'ils vont marcher les premiers, mais il y a une tendance lourde et il y a un besoin que je vais expliquer. En fait, ces produits sont beaucoup critiqués parce que très vite, les chroniqueurs tech et les youtubeurs en ont fait des titres en disant « Ceci ne remplacera pas votre iPhone ou votre smartphone. Ceci ne remplacera pas votre smartphone. » Ben non. Mais en fait, on a déjà vécu cette erreur, nous, chroniqueurs tech, avec ça. Une smartwatch ne remplace pas le smartphone. Et il y a encore beaucoup de gens qui disent une smartwatch ne fait rien que ne fait pas mon smartphone. Et ils ont raison. Mon Apple Watch, ici, qui coûte fort cher, ne fait rien que mon iPhone ne saurait faire. Alors, pourquoi j'en ai une ? Bah, la réponse, elle est très simple. C'est plus pratique pour certains trucs que de sortir mon smartphone de la poche. Et je sais, certains vont me dire « Non mais Jérôme, t'es devenu flemmard au point que t'as même la flemme de sortir un smartphone pour faire certains trucs. » Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que de sortir mon smartphone, l'ouvrir, ouvrir l'app pour faire tel ou tel truc est une succession d'actions, je vais effectivement préférer ne pas la faire plutôt que de laisser mon Apple Watch la faire. Vous voyez ce que je veux dire ? L'exemple type, c'est le paiement. Mon smartphone me permet de payer son contact. Ma smartwatch me permet de payer son contact. Pourquoi je paye avec ma smartwatch ? Parce que franchement, mon smartphone, il est juste dans ma poche. Hein. Je peux le sortir et payer. Bah, parce que la friction, le geste est plus naturel. Le geste est plus rapide. OK ? Donc, ce que je pense de ces fameux objets, c'est qu'ils ne vont pas remplacer les smartphones, mais ils seront meilleurs que les smartphones pour faire certaines choses, notamment avec les intelligences artificielles multimodales. J'explique. Si je fais la manip de dire « Dis mon assistant personnel adoré », c'est mon IA, mon interface conversationnelle. Okay, je ne donne pas de nom pour ne pas les trigger chez vous. Dis mon assistant personnel préféré, de ces 3 bouteilles de vin, laquelle irait le mieux avec un osso buco ? Donc, il faut que je lui montre les 3 bouteilles de vin. OK ? Je vais préférer le faire avec un objet que j'aurai éventuellement là, ou éventuellement là. Ça sera plus facile de lui montrer les bouteilles de vin, pour qu'il m'aide à choisir le meilleur vin pour un osso buco. Plutôt que de sortir mon smartphone, ouvrir le smartphone, le truc de l'IA, vas-y, regarde, ou faire une photo et lui montrer. Donc en fait, ça va devenir des extensions des smartphones. Donc c'est un faux débat que de penser que ces trucs-là vont remplacer les smartphones ou pas. Les juger uniquement par le prisme, ça ne remplacera pas un smartphone, c'est à mon avis ne pas comprendre dans quelle direction on est en train d'aller. Voilà. Et c'est pas parce que la première génération est un petit peu ridicule, elle ne marche pas bien, que ça ne marchera pas. Ça aussi, c'est une erreur de la tech. Je pense. Hein. Mais, je pense que Human va se planter. La marque spécifique Human va se planter. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense également que, en fait, c'est pas leur but de se planter, mais leur vrai but, Human, c'est de se faire racheter. En fait, ils veulent prendre de l'avance sur les recherches internes des grands constructeurs. En fait, je pense même que Human aimerait être racheté par Apple, par exemple. C'est-à-dire, ils veulent prendre de l'avance en recherche-développement sur des produits comme ça, ou que ce soit des lunettes, que ce soit des badges, que ce soit des smartwatches, ce qu'on appelle des gadgets IA, en fait, enfin, des produits IA dédiés. Ils veulent prendre de l'avance sur un Apple, sur un Google, et derrière se revendre. Parce que bien évidemment que quand Apple va faire son badge connecté ou que Google va lancer ses lunettes connectées, ce qu'ils ont déjà fait, mais ils reviendront sous une autre forme, ou Meta, là, qui est en train de mettre de l'IA dans les lunettes qu'ils font avec Ray-Ban, c'est sûr que eux, ils ont des modèles de langage, ces grands GAFAM, beaucoup plus puissant que ce qu'a Human. OK ? Et même, je vais aller plus loin, je me transforme en ingénieur de chez Apple. J'ai carte blanche. Et on me dit, Jérôme, enfin Tim Cook m'appelle. Hi Jérôme.
Hi.
Hi Tim. What the fuck are you working on? Putain, j'aurais pas dû dire ce mot. Merde. Bref. Et il me dit, écoute, carte blanche, bosse sur ce que tu veux. Eh ben, moi, ouais, je risque de me prendre un petit ban, là. Yes. Bon, bah écoutez, on verra bien. Ouais, il parle comme ça, Tim, ouais. Ce que je vais faire, le projet secret que j'ai chez Apple, c'est de transformer à vitesse grand V l'Apple Watch en AI PIN, comme Human. Alors, en fait, le premier exercice, c'est où est-ce que je mets la caméra ? Alors, moi, j'en mets deux, en fait, sur l'Apple Watch. J'en mets une en façade de caméra pour que l'Apple Watch soit, bien sûr, en plus Face ID. Mais j'en mets une, et je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo, je mets aussi une caméra ici. Je vous avais expliqué pourquoi. Donc, j'en mets deux. Déjà, je mets des caméras. Ensuite, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas porter des montres connectées. Eh bien, je trouve un système pour que la montre connectée, je puisse aussi la porter en badge. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en vrai, tous ceux qui ont une Apple Watch savent très bien qu'une Apple Watch est déjà un super objet, même sans bracelet. C'est un objet... Il y en a d'ailleurs qui ont fait des trucs pour les porter en montre à gousset ou en truc comme ça. En fait, vous avez un espèce de mini-objet technologique qui est super agréable. Oui, oui, il y en a qui les portent. Alors, c'est vrai que tu perds certaines fonctions hein, si tu le portes en collier et tout, parce que les capteurs ne sont pas avec le bon contact sur la peau, mais il y en a qui s'en foutent. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est que je trouve que, en fait, Apple, ils l'ont déjà, leur AI PIN. Le hardware, ils l'ont presque déjà, en fait. R&D Nowtech. Oui, tu peux, une Apple Watch, tu peux la porter en collier, en montre à gousset. Alors, c'est sûr que tu n'as pas les capteurs sur la peau, donc tu perds un peu le côté biométrie de ton Apple Watch, mais il y en a qui le font. Ben, en vrai, peut-être pas la Ultra, mais une Apple Watch classique, ça vaut moins cher que le, ça vaut moins cher que ça. Hein. Et, mais je pense que c'est pas incompatible avec la bague connectée. Simplement, la bague connectée, effectivement, tu as raison. Je pense que les bagues connectées, on en portera peut-être quand elles sont petites et très discrètes et qu'on pourra les customiser. Parce que finalement, si toutes les mesures qu'on prend avec une smartwatch, on peut les prendre juste avec une bague, ça nous permet d'abord de porter d'autres types de montres ou de ne pas porter de montres. En fait, on aura le choix. C'est un peu ce que je disais toujours dans ma vidéo, la fin des smartphones. C'est qu'en fait, tout ce qu'on fait avec un smartphone aujourd'hui va commencer à s'éclater dans des objets divers, dans des lunettes, dans des montres, dans des bagues, dans des badges. C'est ça, à mon avis, l'avenir du smartphone. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup moins de raisons de sortir le smartphone dans la poche. Le smartphone sera juste le hub. Ça sera la puissance processeur pour un certain nombre de manips, mais qui vont être déportés sur notre corps, sur nos objets au quotidien. Et quelque part, c'est déjà fait avec les AirTags, les Apple Watch, enfin tous les objets qui gravitent autour d'un smartphone. Même les AirPods sont aujourd'hui des produits satellites au smartphone. Et c'est ça que je pense de l'avenir des smartphones. On les sortira moins de nos poches. C'est pas l'intérêt du smartphone de n'avoir qu'un objet qui fait tout. On revient finalement au couteau suisse, Nituc. Le smartphone est un formidable couteau suisse. Et les couteaux suisses, c'est génial, les couteaux suisses. Merci à vous, les Suisses. Vous avez apporté ce produit au bienfait du monde parce que le couteau suisse, tu peux tout faire. Mais un couteau suisse peut tout faire, mais par exemple, tu ne vas pas monter tout un meuble IKEA avec un couteau suisse. Il peut le faire, mais ce n'est pas la manière la plus confortable de le faire. Oh, merci à Monde de Jeu pour votre aide de 75 personnes. Comment vous allez bien? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre sur cette. Et le smartphone gardera sa possibilité de tout faire, mais on trouvera ça plus pratique. C'est exactement ce que je dis sur l'Apple Watch et l'iPhone. Oui, mon Apple Watch fait des choses que mon iPhone fait déjà, mais mieux et plus pratique. Par contre, il y a des trucs que mon Apple Watch ne fait pas du tout et j'ai besoin de mon iPhone, bien évidemment. Je te garantis que non, Bloom Création. En fait, vraiment, d'abord, c'est une caricature de dire que les gens se baladent avec leur smartphone dans la rue tout le temps. C'est pas vrai. Il y a des gens qui utilisent leur smartphone en mouvement. Ça se termine généralement par une bousculade, mais la plupart des gens sortent leur smartphone quand ils sont à l'arrêt. Et ça, justement, par exemple, c'est un truc que fait mieux l'Apple Watch que l'iPhone pour un glance, c'est-à-dire voir une info, voir une notif qui rentre et tout. L'Apple Watch, quand je suis en mouvement, est plus pratique que de sortir mon smartphone pour regarder le message que j'ai reçu, par exemple. Je vois beaucoup plus des gens avec des intras dans leurs oreilles en mouvement que le smartphone à la main. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien ce que je dis. Le futur, à mon avis, c'est qu'on va avoir des objets qui vont graviter en fait autour de notre smartphone, des satellites de notre smartphone. Alors, il y a quand même un problème à tout ça. Comment on va faire pour tout recharger le soir ? Plus on multiplie les objets. Alors, c'est un oui et non. Parce que déjà, moi, dans mon usage quotidien, j'ai déjà deux satellites à mon iPhone. Mes AirPods et mon Apple Watch. Et je ne rencontre pas forcément de problèmes supplémentaires à recharger. Alors oui, si on a 10 objets supplémentaires, ça va devenir un problème. Mais je veux dire, les lunettes, c'est pareil. Je les enlève pour dormir. Donc si j'ai des lunettes connectées, je les pose sur leur base et elles se rechargeront. Donc, voilà. Je pense que c'est un faux problème. Moi, après, bon, c'est peut-être parce que c'est mon boulot aussi de tester des produits tech, mais quand je rentre chez moi, je branche minimum 5 produits. J'ai minimum 5 produits dont je dois recharger la batterie tous les jours. Vous, vous en êtes à combien, par exemple ? Et comptez tout, hein, de la cigarette électronique à l'iPad, à votre vélo, à votre... combien de produits vous devez recharger tous les jours ? Je parle de tout, hein, même la voiture. Hein. Quatre, trois, deux à trois. Vous n'avez pas des écouteurs, alors ? 4, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, iPhone et Apple Watch. Donc, vous n'avez pas des écouteurs, vous avez des écouteurs filaires. Au moins 8. Moi, c'est vrai que je suis plus comme ça, mais... 6 minimum, 5, 6. Et votre ordinateur, vous ne le rechargez pas ? Non, mais quand je dis tous les jours, on va dire régulièrement. OK, tous les jours. Il y en a qui rusent sur mes sondages, pas sondages. On va dire combien de produits vous devez recharger régulièrement. Il faut être précis. Ça y est, je me fais engueuler. Cinq, six, ouais. Toujours deux. Enfin, plutôt six, voire sept. Ouais, ouais. Donc, en fait, d'avoir des objets satellites, est-ce que ça va se rajouter à ce nombre ou est-ce qu'il y a certains produits qui seront remplacés ? Ça à voir. Moi, je pense par exemple que mon iPad pourrait être remplacé par un hub iPhone qui serait dépliant, par exemple, qui me servirait à la fois de tablette, mais qui aurait un form factor une fois plié, que mes AirPods... j'aurais peut-être une paire de lunettes en plus. Mais que mon objet IA, en fait, ça serait mon Apple Watch. Et donc, ça ne me fait pas un objet de plus à recharger. Ouais, on en recharge pas mal, hein, quand même, des produits. Hein. On en recharge quand même pas mal. J'en profite avant de prendre des questions. Parce je vais prendre quelques questions. Quelqu'un avait une question tout à l'heure d'achat tech. Mais avant, j'aimerais préparer vos questions déjà. J'aimerais remercier CyberSimple pour ton 39e mois d'abonnement. Encore merci à Monde de Jeux pour votre aide. Kim Faye Sailor, merci pour ton 13e mois d'abonnement. Merci d'Enfer 1966. Vous voyez, je suis dérangé par mon Apple Watch. Pour ton 25e mois d'abonnement, merci ACIP Digital qui a offert 10 abonnements communautaires ce matin. Merci Manu 823 également pour ton 4e mois d'abonnement. Merci Mathieu 404. Pour ton 40e mois d'abonnement, merci Pauline pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Créatix pour ton 20e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs du matin. Alors, ceux qui avaient des questions tech là tout à l'heure, c'est le moment de les reposer. Go, go, go. Pour le sport, Apple Watch ou Forerunner Garmin? Alors vraiment, je te donne une réponse à l'emporte-pièce. Plus tu es pro dans ton sport, plus tu vas aller vers Garmin, je pense. Plus tu es casual, plus tu vas aller vers l'Apple Watch parce qu'elle fait d'autres choses mieux que Garmin. En gros, c'est vraiment très schématique. La Garmin est très bon dans ses spécialités, mais elle est moins multi-usage que l'Apple Watch qui va te servir à d'autres choses que le sport. Voilà. Ça ne veut pas dire que Garmin ne te sert pas à d'autres choses que le sport, mais Garmin est quand même moins bon dans les paiements, dans la gestion des notifs, dans ce genre de choses, quoi. Est-ce qu'on a testé le Nothing Phones 2A? Non, on ne l'a pas testé. Du coup, quel robot aspirateur pour 350 euros? Je ne connais pas. Tu sais, je ne suis pas un bon vendeur. Je n'ai genre pas toutes les références en tête avec les gammes de prix. Moi, je suis assez content de mon robot Rock. C'est une marque que j'aime bien. Je ne sais pas ce qu'ils font à 350. Oui, j'ai vu le firmware pour les S5-2 et les S5-2X. Je vous en ai pas parlé ici parce que c'est un peu niche. Mais c'est vachement bien. Hein. Panasonic, ils ont vraiment upé. Si vous avez acheté un S5-2 ou un S5-2X, ils ont amené plein de fonctions super intéressantes. Genre de pouvoir enregistrer directement en proxy. Ils ont amélioré l'autofocus avec des nouveaux sujets d'autofocus. Ils ont amélioré pas mal de choses, effectivement, sur le S5-2, ce qui en fait un produit dans sa catégorie de prix qui est honnêtement imbattable pour la prod vidéo. Hein. Filmer des vidéos YouTube avec son iPhone, me conseillerais-tu pour monitorer ce que tu filmes, vérifier que tu es dans le champ, t'as testé en AirPlay avec le Mac, mais ça lag? En vrai, pour te cadrer, tu t'en fous qu'il y ait du lag. Parce que tu ne vas pas te regarder quand tu te filmes. Ça, c'est le piège. Il ne faut pas que tu regardes ton moniteur quand tu filmes. Donc, en fait, en AirPlay, ça marche très bien. Alors, tu peux relier de manière filaire aussi hein, ton iPhone 13 à un Mac. Et là, tu auras un retour caméra. Tu peux même enregistrer direct sur ton Mac. Et là, tu auras moins de lag. Mais je dirais que c'est tes solutions les plus simples. Hein. Si je lis pas votre question, essayez de la reposer. Hein. Est-ce que vous allez parler des futures mises à jour Windows qui seraient payantes? On en a parlé en format court, mais on en reparlera peut-être. C'est typiquement le genre de news dont on parlera plus sur Instagram ou sur TikTok maintenant que de faire des grosses vidéos, parce que c'est pas un sujet pour une grosse vidéo. Donc soyez sûr de nous suivre sur TikTok, Insta ou dans les shorts de YouTube. On va traiter plus de petites news dans ces formats-là. S24 Ultra ou Honor Magic 6 Pro, le meilleur en termes de polyvalence en choix optique. Si la photo et la vidéo, c'est vraiment l'argument numéro 1 pour toi, le S24 Ultra. Si la batterie est plus importante pour toi, le Honor Magic 6 Pro. Donc ça dépend où tu as mis tes curseurs. Est-ce qu'ils vont faire le Pixel 8a? Oui, c'est fort probable. Surtout qu'il y a des rumeurs en ce moment. Pour 350 euros, un petit robot Rock, mais pas avec la station de charge. D'accord. Mesé Lyric ou Sony MDR-Z1R? La question trop hors sujet. C'est quoi? C'est des casques? Je connais ni l'une ni l'autre des refs. Demande à Pépé Garcia. Allez hop, tu pars chez Pépé. Hein, ça, c'est des questions pour Pépé, c'est pas des questions pour moi. J'ai une Coro C'est pas cher et avec les mises à jour, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour le triathlon, d'accord ? On a parlé de Human, quid de Rabbit R1 ? Bah, les premiers tests de Rabbit R1 ne sont pas encore sortis. Le Roborock S8 basique pour 350 euros. Sinon, il y a un EcoVac, tu peux trouver ton bonheur. Voilà. Après, honnêtement, pour répondre à la question, je pense que 350 euros est un budget trop faible pour un aspirateur robot. Je m'explique. Les aspirateurs robots qui ne font que aspirer ne sont pas des game changers. Parce que d'abord, ils ne vont pas avoir les aspirations les plus puissantes. Et comme ils ne lavent pas le sol avec un système de serpillière et tout ça, tu ne vas pas trouver ça ouf. Alors, ça aide quand même, notamment si tu as des animaux à aspirer régulièrement le poil des animaux. Mais là où un aspirateur robot t'aide vraiment, moi, je pense qu'il faut quand même un système de serpillière bien foutu. Le passage de la serpillière rend vraiment ton salon clean, quoi. Frais maillot, on s'en sert et on va commencer à s'en servir de plus en plus. Un outil très puissant pour travailler en collaboratif sur de la vidéo. Et quand tu dis que les gens ne s'en servent pas, en tout cas dans le milieu de la vidéo, ils s'en servent beaucoup. Quelles sont les actus récentes concernant Google et Huawei ? Il va falloir être plus précis dans la question. Salut à toi Jérôme, je suis arrivé tard. Est-ce que vous parlez des futures mises à jour Windows qui seraient payantes, fake ou pas fake ? Alors, il y a peut-être une news du jour. Je ne l'ai pas vu passer. On en parlera la semaine prochaine. On a parlé de... Ouais, ça s'est fait. C'est que j'hésite à acheter le M2, mais je sens que je vais l'acheter et qu'un mois plus tard, ils vont sortir le M3. Sur ce raisonnement-là, tu n'achèteras jamais rien. J'ai tout le temps la question des gens me disant « Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas que j'attende le prochain ?» Ma réponse sera toujours la même. Si tu as besoin de quelque chose, achète-le tout de suite. Même si c'est la veille du nouveau modèle. J'exagère un peu. Hein. Mais en gros, la vie est trop courte. Et si tu as besoin de quelque chose, n'attends pas. Parce que remplir un besoin, c'est avoir une vie meilleure quand même. Par contre, si c'est une envie, là, tu peux attendre. Parce que les envies, ça passe, ça va, ça vient. Tu vois, comprenez ce que je veux dire ? N'attendez pas quand vous avez un besoin, n'attendez pas. Comment va Naotech et quels sont vos futurs projets ? Trop vaste comme question, va falloir préciser. TV en veille ou TV branchée sur une prise Philips Hue en veille ? J'avoue que ma télé, elle est en mode veille. Je ne l'ai pas branchée sur une Philips Hue en veille. C'est pas bien, mais oui, j'ai encore... Je dirais que mon audiovisuel reste en veille. Alors si je le débranche les week-ends où je pars, quand on part longtemps, mais j'avoue que je débranche pas tout tous les soirs. On devrait, mais j'ai pas cette discipline-là. Et je me blâme pas, hein. C'est comme ça. Serpillère sur un parquet, oui, tout à fait. Oui, oui, ça fait pas de mal à ton parquet, un petit peu d'eau. Franchement, ça lave très très peu. Hein. C'est pas non plus la grosse serpillière pleine de flotte. Hein. Mon robot aspirateur passe sur mon parquet, hein, sans problème. Mes parents, quand j'achète des casques à 2K balles, tu as le temps pour l'acheter, la vie est longue. Vraiment, apprenez à faire la différence entre besoin et envie. Et attention, dans les besoins, dans les loisirs, on peut avoir des besoins. Avoir un bon casque audio peut être un besoin parce que vous écoutez beaucoup de musique, vous avez un trajet école ou travail, machin. Ça peut être tout à fait identifié comme un besoin. C'est pas parce que c'est un loisir que c'est superflu. Attention, alors, entendez bien ce que je dis. Mais il y a une vraie différence entre une envie et un besoin. Et pour moi, pour être bien quelqu'un de Take Your Time, qui est notre credo sur la chaîne, c'est parce que vous maîtrisez l'art de la distinction entre le besoin et l'envie. Je sais, ça vous évoque pour les plus vieux une chanson de merde. Mais c'est pas ça que je veux dire. TV OLED, ne jamais la brancher, débrancher. Ah bon, pourquoi ? Est-ce que les veilles consomment beaucoup ? Non, mais ça consomme quand même, pour rien. Ça va bloquer les cycles de maintenance de l'écran. D'accord, bon à savoir. Bon, bah, donc je débranche pas mon OLED, parce que je fais attention au cycle. Pour moi, c'est un besoin, mais ça part vite en passion. Attention, passion, c'est encore autre chose. C'est pas incompatible, un besoin et une passion. Les passions, c'est hyper important dans la vie. Mais au sein d'une passion, tu as des envies et des besoins. Faut jamais débrancher OLED, c'est très dangereux. Ça, c'est clair. Quelle caméra tu conseilles pour faire du vlog, j'imagine, en partant globalement de zéro niveau objo ? En fait, ça va un peu dépendre de ton type de vlog. Je trouve que les smartphones aujourd'hui, si je devais me lancer dans le vlog, je pense que je chercherais le produit le moins de prise de tête possible et ça serait probablement mon iPhone pour vlogger. Et d'ailleurs, les rares fois où je vlog, c'est avec mon iPhone. Acheter un appareil juste pour le vlog, alors tout dépend. Parce que par exemple, si tu fais un vlog, je sais pas, sur les antiquités, tu as besoin de te filmer toi en train de chiner, mais tu as aussi besoin de faire des belles images d'objets. Sony ou Panasonic, je pense, en boîtier. Le nom des boîtiers, j'ai pas tout en tête, mais là, de toute façon, ton premier choix, ça va être dans quelle famille tu vas, parce que les objectifs, il va falloir les acheter et tu vas pas pouvoir choisir. Moi, perso, je trouve que la gamme L de Panasonic d'objectifs, elle a un truc vraiment bien. C'est qu'ils ont fait toute une gamme d'objectifs fixes qui ont le même poids et la même taille. Et ça, pour faire du vlogging, pour peu que tu utilises un gimbal, peut-être, c'est vachement bien parce que tu n'es pas obligé de re-régler ton gimbal chaque fois que tu changes d'objectif. Ça paraît con comme ça, mais c'est hyper important. Osmo Pocket, le dernier est vraiment bien, je crois. Le DJI, pas le truc de DJI là, avec une petite tourelle. Il paraît que le dernier est une dinguerie, hein, mais je ne l'ai pas testé. Après, moi, je regarde des vidéos de gens sur YouTube qui filment tout à l'iPhone. T'as pas de faible profondeur de champ. T'as pas de joli bokeh. Mais c'est propre hein, aujourd'hui. Hein. Un iPhone 15 Pro, waouh, c'est propre. Hein. En fait, il faut vraiment être prêt. Le problème de tout objet hors d'un smartphone pour faire du vlogging, c'est que ça veut dire qu'il va falloir copier tes fichiers sur ton appareil de montage, ce qui est une friction. Le gros avantage de tout filmer avec l'iPhone ou un smartphone, tu montes direct. Tout dépend le type de contenu que tu vas faire. Si par exemple, c'est du vlogging TikTok, moi, si je devais faire du travel TikTok aujourd'hui en vlogging, tout au smartphone, je monte sur le smartphone, je publie direct, quoi. Pas de copie de fichier et tout, quoi. Tu conseilles quel appareil photo pour un néophyte ? Alors attention, un débutant doit d'abord travailler sur sa composition, son cadrage et son choix de sujet. N'importe quel smartphone suffit pour bosser là-dessus. Absolument pas obligé de t'acheter un appareil photo dédié pour un débutant. Parce que le débutant doit, à mon avis, je vais être très extrême, doit passer au moins un an à faire des photos tous les jours pour bosser son cadrage, sa composition, son choix de sujet. C'est ça qui fera des belles photos, pas l'appareil. Après, le petit scarabée aura déjà franchi une marche. Là, il peut commencer à se dire « Ok, je veux des objectifs interchangeables, je veux commencer à avoir des bokeh crémeux et tout. » Là, il peut passer un appareil photo dédié. C'est vraiment, vraiment pas vos appareils qui font les photos. Ça fait 15 ans que je vous le dis. Vraiment, ça devrait être la dernière question à se poser. Quel appareil je prends ? Alors, pour des photographes expérimentés, c'est une question importante. Mais si vous êtes un néophyte, un débutant et même un prosumeur ou un enthousiaste, le choix de votre caméra, il arrive déjà derrière le choix des objectifs. Mais il arrive bien loin derrière le choix du sujet, et la composition et le cadrage. Tout appareil photo a des possibilités, des limitations, même celui qui vaut 10 000 balles. Même plus celui qui vaut 10 000 balles, il a des limitations. Un appareil photo qui fait tout bien, le couteau suisse des appareils photo, il y en a, qui sont très polyvalents. Ce n'est pas le meilleur appareil photo non plus. Ça n'existe pas, le meilleur appareil photo. Le meilleur appareil photo, c'est celui que vous avez sur vous. C'est un vieux mantra des photographes qui est vrai, mais qui ne veut pas dire ce que vous croyez. Ça veut surtout dire on s'en tape de l'appareil photo. Bosse ta composition. Comment rendre une image intéressante ? Ça ne se passe pas dans les mégapixels et les trucs. Ça se passe dans ta compo, dans ton cadrage, dans ton choix de sujet. Et le but de la photo, ce n'est pas de rendre votre photo techniquement parfaite, c'est de la rendre intéressante. Et une photo floue intéressante vaut 10 000 photos nettes pas intéressantes. Voilà. Non, mais Mick Cacole, tu me parles de moyen format. Déjà, un néophyte, un débutant, va pas lui prendre la tête avec du moyen format. Déjà, quand tu te poses la question full frame au moyen format, je dirais il faut avoir des années de photos derrière soi. Hein. Un débutant qui se pose cette question-là, je fais « Ok, toi, tu es bon pour être un geek photo qui prendra jamais des photos intéressantes. » Et je critique pas. Je connais des gens, leur kiff, c'est d'avoir le kiki tout dur devant les specs des appareils photo. Mais ils sont incapables de faire une photo intéressante. Attention, hein, je suis pas en train de dire que moi je suis un bon photographe. Hein. Très peu de mes photos sont intéressantes. Et j'en suis loin. Je devrais moi aussi tout arrêter et passer un an à faire des photos tous les jours pour progresser. Je progresse plus d'ailleurs en photo, je stagne. Et je trouve mes photos merdiques et à chier. Moi, je considère que je ne suis même pas un amateur éclairé. Je ne fais pas assez de photos. En vrai, mais moyen format. Mais qu'est-ce que tu vas te faire chier avec un moyen format pour faire du reportage, par exemple, ou partir en vacances? Oh, il y en a qui le feront, hein. Mais je connais aussi des gens qui prennent, tu sais, les vieilles boîtes photos, là, avec les trépieds en bois, parce que c'est leur kiff. Non, mais sur Newt, c'est pas de l'autocritique, je me flagelle pas. Et ce n'est pas de la fausse humilité. Mais je ne me revendique absolument pas comme photographe. Ce n'est pas mon métier. Et je dirais même qu'en termes de passion, je ne suis absolument pas au niveau en photo par rapport à d'autres. Mais oui, qu'est-ce que vous avez... Enfin, bon, vous savez, moi, en vacances, je prends de moins en moins un boîtier dédié. Hein, parce que franchement, le smartphone, c'est vachement mieux pour les photos de vacances. Hein. Alors là, unpopular opinion auprès des photographes. Mais alors moi, maintenant, alors j'amène souvent mon boîtier dédié, mais pour un but bien précis en voyage. Mais alors, pour faire des photos de vacances... Je vois pas pourquoi je me ferais chier aujourd'hui à trimballer. C'est lourd, un boîtier dédié, les objectifs et tout. Je l'ai fait, ça m'a tué les épaules et j'ai plus envie de le faire. Voilà. Je parle bien de la photo de vacances. La photo qui est purement illustrative. Je cherche pas à faire forcément... J'essaie de faire des photos agréables à regarder avec ma famille et mes potes. C'est ça, une photo de vacances marrante. Je cherche pas. Moi, pour moi, une photo de vacances, c'est pas une photo que je vais mettre sur Instagram. Comprenez bien mon lexique de langage. Tu as vu les vidéos. Alors, tiens, ça m'intéresse. Hein. Tu as vu. Je comprends pas. C'est pour ça que ça m'intéresse. Tu as déjà vu les vidéos de test des batteries des iPhones dans une église qui filme au max en résolution jusqu'à il s'éteint. Waouh, ça fait tellement secte! Bonjour, bienvenue dans ma vidéo où je teste la batterie des iPhones dans une église qui va s'éteindre. Non, j'ai pas vu, ça me dit rien. Moi, je sais qu'au Japon, alors je suis pas encore sûr, il faut que je vois, mais ce que j'ai envie de faire, c'est que la plupart des photos, beaucoup de photos, je les ferai avec mon iPhone et je vais amener un Panasonic, probablement un S5 Mark II. Et pour les photos, de m'imposer la contrainte de ne travailler qu'au 100 mm. Je vais un peu extrême, 100 mm. Pas un objectif polyvalent, un 100 mm. Et de faire ce qu'on appelle une série photo, de me donner un thème et une contrainte, de dire, tu ne prends des photos qu'au 100 mm sur un sujet bien précis. Je ne sais pas, les poignées de porte. Voilà. Les poignées de porte au Japon au 100 mm. Ça, maintenant, ça me fait kiffer de faire ce genre de truc. De me donner des contraintes pour faire une vraie série photographique. Et ben pour ça, il faut vous fixer des contraintes. Ben, en vrai, les limitations, Fanny, te rendent créatif. Parce que je te donne comme exercice. Refais-moi ressentir le Japon à travers des poignées de porte. Allez, un peu plus large. Je te donne une thématique. Les ouvertures au Japon. Donc, ça peut être des portes, des poignées de porte, des fenêtres, des cadres. Voilà, l'ouverture au Japon. Et tu fais tout au 35 mm. Pas droit à un zoom. Pas droit de changer de focale. Tu peux que cadrer en bougeant avec tes pieds et tu me fais 10 photos sur cette thématique, les ouvertures au Japon. Tu vas voir comme ça va te rendre créative. Et là, tu vas avoir des photos beaucoup plus intéressantes, même émotionnellement, que de faire des photos de vacances, en fait. Donc moi, c'est mon conseil. Fixez-vous des contraintes et faites autre chose que des photos de vacances en vacances. Vous allez redécouvrir un plaisir photo. C'est chiant, moi, je trouve pas. Ça rend créatif, moi, je trouve. Allez, ouais, c'est un peu l'heure. Non, surtout, j'ai un tournage. Il est 9h55. Tu as cru, hein, Samuel, que j'allais terminer à 9h30. Mais non, bien sûr que non. Après, je comprends hein, qu'on parte avec un 28-200 en vacances. Tu peux faire toutes tes photos. Mais ça, je trouve que les... En fait, pour faire toutes les photos, bah, je trouve que le smartphone, c'est très bien, largement suffisant pour faire toutes les photos. Après, un type de photo bien particulière, là, j'aime bien y amener mon boîtier dédié. Et je vous expliquerai peut-être tout ça dans une vidéo. Surprends-moi, je vendredi prochain. Non, je suis très prévisible, tu sais, moi, les stats, le marketing, incapable de terminer une émission à l'heure. C'est très, 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 très prévisible. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Très bon week-end, c'est tout. On se retrouve mardi avec Marion, effectivement, pour le mug. Désolé, en ce moment, je ne stream pas du tout de jeux vidéo. Je n'ai pas du tout le temps les week-ends. Vous savez qu'on est en préparation du voyage, d'un gros voyage de 5 semaines au Japon. Professionnel et donc je bosse le week-end beaucoup et puis en plus j'ai plein de choses à faire voilà qui ne vous regardent pas donc ouais j'ai pas trop le temps de streamer du jeu en ce moment, ça reviendra cet été je pense. On va faire bien sûr un petit raid. Chez qui va-t-on faire un raid? Alors qui est là? Qui est là? Je regarde. Tiens, bah, un petit raid chez Basti. Allez. Un petit raid chez Basti qui a des mauvaises nouvelles pour son bureau. Que lui arrive-t-il à Basti? Vous le saurez en allant le voir. Je vous fais des gros bisous. Allez changer vos balais de chiottes. Et je vous fais des gros bisous à mardi. Attendez, je fais le raid déjà. Je lance le générique de fin. Ciao tout le monde.